ce numéro de Vivre Ensemble sur Radio FM Plus 91 FM à Montpellier. Nous nous trouvons dans les locaux de l'association ALMA, une association contre la maltraitance, ALMA 34. Et nous sommes en compagnie de Monsieur Jean-Claude Cadillac, psychiatre, et de Monsieur Jean-Pierre Pellegrin, médecin généraliste, tous les deux retraités. Je vais vous donner la parole à l'un puis à l'autre, en commençant peut-être par vous, Monsieur Cadillac, qui allait nous présenter une sorte de typologie des maltraitances. Rappelons que nous avons déjà eu une première émission plutôt générale sur l'action d'ALMA et aussi sur ce qu'était cette souffrance. Et je vais renvoyer simplement les auditrices et auditeurs sur ce numéro qui est enregistré et disponible sur nos sites internet. Donc une typologie des maltraitances, Monsieur Cadillac.
Alors, je crois qu'il faut distinguer déjà dans les maltraitances deux types, c'est-à-dire les maltraitances où l'intention de nuire est évidente et qui est possible parce qu'il y a entre deux personnes, l'un qui va être la victime, l'autre qui va être le coupable, un rapport de force qui permet l'acte, le passage à l'acte maltraitant. Donc, dans ces premiers types de maltraitance avec intention de nuire, vous trouvez effectivement toutes les formes de maltraitance, et y compris celles qui sont punissibles par la loi, enfin, qui sont que la loi répréhende. Il est évident que si vous commettez un vol, ben, vous êtes dans un acte maltraitant. Mais cet acte maltraitant, et l'enquêteur pourra venir et dire « voilà le coupable et je vais le punir ». Mais vous avez beaucoup de maltraitance qui ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire où il n'y a pas une intention de nuire clairement exprimée, où le maltraitant n'a même pas conscience parfois de commettre un acte maltraitant. Donc il nous faut recarter du côté de la victime pour définir la maltraitance. C'est-à-dire, moi je me sens en tant que victime maltraitée, donc c'est une maltraitance. Et ce n'est pas parce qu'on ne peut pas désigner clairement un coupable qu'elle se sera pour autant moins bien traité, ne se verra pas pour autant maltraité. Alors, un mot pour définir, si vous voulez, ce type de maltraitance, on les appelle souvent des maltraitances structurelles, c'est-à-dire qu'elles sont liées à un dysfonctionnement d'une organisation des soins. Alors que ça peut se passer à domicile, ça peut se passer dans un hôpital, ça peut se passer dans une maison de retraite, et on peut donner différents exemples de ce type de maltraitance structurelle. Alors, ce sont souvent des maltraitances en cascade, c'est-à-dire, on va prendre un exemple. Par exemple, que j'ai choisi pour vous, une malade d'Alzheimer est à domicile, entourée par sa famille, qui... Bon, et jusqu'à présent, tout se passe bien. Et puis, vous avez brusquement une aggravation de la maladie pour des raisons extérieures ou pour des raisons liées à des troubles somatiques qui fait que cette malade s'aggrave et passe en confusion, par exemple. Donc, à ce moment-là, elle ne peut plus... Que faire, hein ? On peut plus... Voilà. Alors, on va appeler le médecin généraliste. Le médecin généraliste, lui, va être bien embêté parce qu'il va être pris dans l'urgence. On va lui dire qu'il faut absolument trouver une solution. On ne peut pas la garder à la maison dans cet état elle est. Que va faire le médecin généraliste? Bien souvent, il est obligé de l'adresser à un service d'urgence. Elle arrive dans un service d'urgence, mais l'urgence n'est pas programmée particulièrement pour des malades comme ça. Donc on va se rendre compte que c'est une malade qui perd un peu la tête, et on va trouver qu'il y a d'autres urgences dans le service qu'une malade qui perd la tête. Donc on va la laisser déjà, si vous voulez, traîner parfois 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Ça peut être très long dans un service où, quelque part, elle n'aurait jamais dû aller. Là-dessus, si vous voulez, les urgentistes, ils sont bien obligés de poser des actes pour faire cesser cette situation. pour trouver une solution. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ben, il faut l'hospitaliser. Hein. Ah, alors où l'hospitaliser? Eh ben, il faudrait normalement trouver un service adapté. Bon, en téléphone au service adapté, il n'y a pas de place. Eh bien, il faut quand même trouver une place. Donc, on va la mettre dans un service qui n'a rien à voir avec les gens âgés. Et elle va se retrouver dans ce service où on ne va pas non plus s'intéresser à elle passionnément parce qu'on dit ben, il faut qu'elle aille dans le service adapté. Et mais, si vous voulez, vous voyez bien que dans ce voyage, j'allais dire, hein, en médecine, eh bien, on peut encore dramatiser la situation, parce qu'entre-temps, on a oublié à domicile sa paire de lunettes. Aux urgences, on ne sait plus où sont passés son appareil auditif. Ça se trouve, elle a aussi oublié sa prothèse dentaire. Alors, elle va être dans une situation de plus en plus faible, donc de plus en plus susceptible d'être maltraitée. Voilà, alors ces enchaînements, si vous voulez, personne n'est coupable, enfin, quelque part, mais il y a bien quand même quelqu'un qui subit une maltraitance. Et il faut les dénoncer, pourquoi? Parce que ces maltraitances structurelles, elles passent, si vous voulez, les gens... Les structures maltraitantes ne se rendent même pas compte. Et c'est parce qu'on va leur dire, mais attention, là vous avez fait quelque chose qui est maltraitant, qu'elles vont peut-être chercher à se réorganiser. Alors l'exemple classique, c'est qu'avant, par exemple, l'exemple qu'on prenait, c'était l'histoire de ces malades qui ont perdu un peu la mémoire, et on les dit faut aller faire une radio, on les met sur un chariot, on les oublie dans un couloir parce que on n'a pas prévenu qu'elle allait arriver, donc elle va rester, si ça se trouve, une demi-heure, une heure, deux heures dans un couloir. Et je veux dire que ça, c'était tellement visible que nous l'avons tellement souvent dénoncé qu'actuellement, eh bien, on a l'impression qu'il y a un progrès qui est fait. Hein. Ben voilà, eh bien, c'est pareil si vous voulez. Je pense que si on peut programmer une organisation des soins qui prenne en compte cette malade sans la maltraiter, c'est pas impossible. C'est difficile, mais c'est pas impossible. Alors je pourrais parler.
Donc c'est aussi là, à ce moment-là, que l'association ALMA intervient pour améliorer ces conditions de prise en charge.
Au moins pour les dénoncer, c'est-à-dire pour pas dire, on ne peut pas dire nous, non, non, c'est normal, hein, non, non, c'est normal, on ne peut pas faire autrement. Je crois que nous avons à faire passer ce message, oui, on peut changer.
Jean-Pierre Pellegrin, au niveau des appels qui sont reçus ou des cas qui sont traités par l'association ALMA, comment se répartissent statistiquement ces maltraitances, ces types de maltraitances?
Eh bien, au fil des années, on a l'impression qu'il y a une statistique relativement stable, d'une part concernant le ratio entre les personnes vues à domicile et les personnes qui sont en institution. Il semblerait, au regard des statistiques de notre association, que dans le premier cas, il y ait à peu près 80% des non, 60% des situations qui se passent à domicile et 40% qui se passent en institution. Voilà pour une première statistique. Deuxièmement, depuis déjà une quinzaine d'années, l'association s'occupe à la fois des personnes âgées et des personnes handicapées. Là, il y a donc une autre statistique qui, elle aussi, est à peu près stable d'une année sur l'autre et qui comporte environ 80% de personnes âgées et 20% de personnes handicapées.
Monsieur Cadillac, vous avez évoqué le cas d'une personne âgée. Donc, est-ce que pour une personne handicapée, elle va-t-elle se retrouver dans un établissement généraliste comme un hôpital, ou est-ce qu'elle va être réorientée vers des organismes qui seront peut-être plus habitués à gérer ces handicaps et donc peut-être moins susceptibles de faire de la maltraitance, malgré eux, bien sûr?
Alors, dès que vous parlez de handicap, il faut faire très... faut être prudent, parce qu'il n'y a pas un handicap qui ressemble à l'autre. C'est-à-dire que si vous mélangez quelqu'un qui ne voit pas et quelqu'un qui ne marche pas, vous voyez bien que les problèmes qui sont posés ne sont pas les mêmes. Alors, une des différences aussi, si vous voulez, que parmi ce monde du handicap, il y en a qui sont très capables de se défendre et d'autres qui sont beaucoup moins capables de se défendre. Si vous prenez, par exemple, un handicapé moteur ou un handicapé de la vue, je veux dire qu'il a des possibilités de se défendre d'une maltraitance, alors que si vous prenez un handicap psychique ou un handicap mental, eh bien, vous avez cette possibilité de se défendre qui est beaucoup moindre. Donc, là aussi, n'oublions pas que nous disons toujours, c'est le rapport de force qui définit la maltraitance. Et si lorsque l'handicapé sait se défendre, eh bien, effectivement, il sera moins maltraité. Mais on retrouve quand même dans le handicap ces mêmes problèmes de maltraitance structurelle. Par exemple, vous avez un handicapé qui a besoin de changer de service, de passer dans un centre, d'aller dans un centre, alors que jusqu'à présent, bon, il se débrouillait. Eh bien, et ce centre, est-ce qu'il va le trouver? Est-ce qu'il ne va pas le trouver? Ce n'est pas évident. Hein. Et donc là, vous avez aussi une maltraitance structurelle, parce que ce qu'il n'y a pas suffisamment d'établissements qui sont offerts à ces gens-là.
Les appels qui arrivent, Monsieur Pellegrin, proviennent-ils de ces établissements qui, finalement, remarquent, constatent qu'il y a maltraitance, ou proviennent-elles d'autres personnes?
La maltraitance des handicapés en institution, c'est quelque chose que nous ne gérons pratiquement pas, parce que les signalements sont excessivement rares. Par contre, la plupart des signalements concernant des handicapés sont le fait d'handicapés relativement jeunes et sous protection juridique, que ce soit donc des personnes qui bénéficient d'un statut de tutelle ou d'un statut de curatelle. Et c'est souvent cet assujettissement des personnes handicapées à une protection juridique qui est source de conflits. Et des conflits qui sont rarement, du moins de notre avis, qui sont rarement des maltraitances, mais plutôt des incompréhensions en provenance de la personne handicapée.
Je vais donc conclure, en tout cas, et vous remercier, Monsieur Jean-Claude Cadillac, Monsieur Pellegrin, de m'avoir accueilli dans vos locaux. Je rappelle que ALMA, Fédération 3977, est toujours joignable par téléphone, et on peut appeler justement le 3977, c'est un numéro national qui, quand on est montpelliérain, on arrive dans les locaux de Montpellier, et Montpellier et Hérault. Merci et au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
L'association ALMA est joignable 24 heures sur 24 au 04 67 04 28 50. Vous avez donc accès à un répondeur. Et la permanence se tient le jeudi de 14h à 17h.